Je voudrais quand même introduire ce propos en expliquant que lorsqu'il m'a été demandé de prendre la parole, j'ai regardé le thème. Je me suis dit que ce serait bien de rester dans le thème. J'ai donc choisi de parler d'un sujet en me disant que certainement dans la salle, beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore qu'on ne sait pas là-dessus. C'est vrai que je ne sais pas si tout le monde a fait cette observation ici chez nous. Tout le monde vous dit, mais l'urgence, nous tous on connaît. Si bien que parfois ça tire à la dispute. Tout le monde sait faire l'urgence. J'avais cette impression aussi moi-même. Je me disais, non pas que je sais faire l'urgence, mais je me souviens quand nous avons créé la formation en médecine d'urgence. Nous étions une brochette d'anesthésistes et il y avait un médecin pompier, Madame Thema, docteur Thema. Elle était chargée de faire les premiers secours. Alors j'arrive en tant que responsable de la formation. Pendant qu'elle faisait son cours, il fallait que je voie, que je m'assure que c'était correctement fait. Alors, pendant qu'elle fait le cours, je pense que je peux faire avec elle. Ma surprise a été très grande quand je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien dans ce domaine. Finalement, de l'encadreur, du professeur, j'ai préféré aller m'asseoir avec les étudiants pour apprendre aussi. C'est là que j'ai commencé à réaliser que les gestes que je croyais savoir faire, je ne savais pas grand-chose. Deuxième expérience, on va à un congrès à Cotonou de la Société d'anesthésie d'Afrique noire francophone. On venait de terminer l'agrégation. On était quand même pas des savants, mais des gens qui connaissaient un peu l'anesthésie. On est en plein congrès. Je termine ma conférence. Mon collègue Sanou vient après moi pour prononcer sa conférence. Puis, c'est court. Alors, quand il s'écoule, tout le monde dans la salle se déverse sur lui, si je peux dire ainsi. Alors, on avait un Français qui était avec nous, professeur Abéret. Peut-être que vous lisez quelques-unes de ses publications. Il était au fond de la salle, il avait une toute petite voix. C'est lui qui criait de là-bas, « Mais laissez-le, vous allez finir, lui prendre tout l'oxygène !» Nous tous, on était agglomérés sur ça. C'est après, les uns disaient tirer, les autres porter, les autres... Bref, et nous étions tous médecins anesthésistes. J'ai une troisième expérience. Il y en a beaucoup, mais quand même, il faut que je le dise. Devant le chez moi, sur la route qui va au stade Omnisport où j'habitais avant, côté de l'hôtel Marcel Hôtel, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Un dimanche, après le match, j'entends un très grand bruit. Évidemment, on ne sortait pas, il y avait tellement de désordre sur la route, moi je me suis gardé de sortir. C'est là où un de mes enfants vient me secouer pendant que j'étais devant mon bureau. Tu fais quoi là? Il y a un grand accident sur la route. J'ai fini par sortir. Il y avait deux motos. Le sang gisait de partout. Je savais par où commencer. Je cours, je rentre, je cherche un cathéter que je ne trouve pas. Je cherche un sonité, je reviens, je ne sais quoi faire. Après, je me suis souvenu, peut-être qu'il faut mettre de côté. Bref, j'ai appelé l'hôpital gynéco, je leur ai dit j'ai un accident, envoyez l'ambulance. L'ambulance est venue plus d'une heure après, bien sûr. Et on a pu transporter, je n'ai pu rien faire. C'était comme ça. Évidemment, une des victimes est décédée dans la voiture. Je vous cite cet exemple, merci, pour dire que lorsque nous avons une occasion comme celle-ci, c'est peut-être l'occasion de bien planifier les choses et de bien les préciser. Parce que, on dit en ma langue, Bassa, parler et faire, c'est deux choses bien différentes. Je ne sais pas si vous avez eu le même problème que moi devant l'urgence. Je vous avoue que tous les livres d'urgence que j'ai écrits, c'est parce que j'étais toujours paumée devant l'urgence. Ainsi donc j'ai choisi pour cette leçon inaugurale de parler de la prise en charge extra-hospitalière des traumatismes sévères. Après tout ce que moi j'ai vécu, j'imagine que certains d'entre vous aussi ont vu. Non seulement de parler de cette prise en charge extra-hospitalière, mais de voir que au sortir d'ici, la SCAP devra nous proposer quelque chose que nous pouvons appliquer. On n'est pas toujours obligé de prendre les recommandations de telle ou telle société occidentale. D'où la deuxième partie. Je pense que chez nous, c'est le stay and play. Mais comment? Il faut qu'on adapte à notre pays. Voilà. Pour l'introduction, je crois que je l'ai déjà dit. C'est ce que je voulais vous dire. Certains gestes sont calculés. On passe diapo passé. On pense qu'on sait que c'est une diapo. Voilà. Diapo encore. On va commencer par nous situer. L'urgence même, c'est quoi? Une fois de plus, c'est vrai que tout le monde a la définition. On va quand même rappeler que l'urgence, en général, c'est le recours à l'aide, aux soins. Nous, on parle de soins médicaux. Soins qu'on va délivrer à un tiers, essentiellement pour l'aider à résoudre un problème que lui-même ne peut pas résoudre. L'urgence médicale, en général, nous parlons des urgences vitales, parce qu'il y a plusieurs degrés, et les urgences vitales, ce sont donc les pathologies qui sont graves, les pathologies qui surviennent généralement de manière inopinée, les pathologies, comme on a dit, sont graves, donc mettent en jeu le pronostic vital, mais un des mots-clés, c'est le délai très court. Diapo. Il y a d'autres attributs pour les urgences. Et je crois que tout le monde sait ici qu'il faut quand même catégoriser l'urgence en fonction du délai d'action. Qu'est-ce qu'on appelle délai d'action? C'est tout simplement que si vous n'agissez pas, on ne sait pas à la matière, mais quand même environ le temps, la personne va se décompenser et très rapidement, ça va devenir irréversible. Lorsqu'on est en train de gérer l'urgence, que ce soit en extra-hospitalier ou à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle l'urgence ressentie. C'est le patient qui sent que ça ne va pas et qui vous presse et qui crie le plus fort. En général, ce n'est pas ceux qui sont les plus graves. D'où l'intérêt, bien sûr, de faire le triage. Diapo. Évidemment, là-dessus, on a les urgences individuelles que nous gérons tous les jours. Mais il y a les urgences collectives qui nous interpellent de plus en plus. Il y a beaucoup de catastrophes en ce moment autour de nous. Cette période, il y a eu des inondations. Il y en a de toutes les catégories. Nous n'aborderons pas ces urgences collectives ici. Diapo. Alors, l'intérêt de la question, nous avons commencé par là, mais nous insistons sur le fait qu'il est important vraiment de ressasser le problème des urgences. Et il y a des auteurs qui parlaient d'épidémie négligée en parlant des urgences. Parce qu'on avait l'impression qu'on n'en parlait pas assez. On parle de beaucoup de choses, surtout dans nos pays, mais il n'y a pas beaucoup de rencontres, beaucoup de propositions sur l'urgence individuelle. Je me demande pourquoi on ne pense pas, par exemple, au chef de santé, on va ou pas. Donc, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand et à n'importe qui. Il faut souvent le répéter autour de vous que ceux qui pensent qu'on peut évacuer, ici, on ne peut pas évacuer. La prise en charge doit être spécifique et la prise en charge doit être très rapide. On a l'habitude de dire il faut ces trois éléments, la préparation, la permanence et la continuité des soins. Les soins ne doivent pas être arrêtés. Diapo. Voilà le genre. Diapo encore. La préparation des différentes étapes de circuit. Donc, le terme clé consacré, c'est le circuit. C'est comme une chaîne. D'ailleurs, les anglo-saxons parlent de chaîne de circuit. Il faut donc avoir préalablement réfléchi. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne réfléchit pas devant les gens, on réfléchit avant. Et c'est pour ça que ça donne l'impression de répétition. Hein? On doit toujours réfléchir avant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ne soyez pas contrariés parce que vous avez l'impression qu'on dit les mêmes choses. On dit que la répétition est la mère du savoir. Donc, toujours avoir réfléchi au préalable pour pouvoir intervenir efficacement. Parce qu'il faut éviter d'être pris au dépourvu. Diapo ? Diapo ? Allons-y. Pour approfondir cette présentation, nous avons adopté une méthode qu'on appelle la méthode de Walker. Allons-y. Elle nous donne des étapes à travers lesquelles nous travaillons. On va commencer d'abord par évaluer le concept. Allons-y. Le concept, nous l'avons déjà donné dans le titre. Diapo. 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 Alors, l'objectif de cette présentation, elle s'est basée sur toutes les études qui ont été faites sur les urgences et qui ont montré à quel point nos pays étaient exposés. Et nos pays sont particulièrement exposés aux urgences chirurgicales et surtout aux urgences traumatiques. Allons-y. Diapo. C'est pour cela que nous avons préféré retenir comme modèle d'urgence grave le polytraumatisme. Alors, le concept du polytraumatisé, la définition, on n'a pas toujours un consensus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un consensus où on s'est fixé. Il y en a qui disent plusieurs blessures, avec au moins une qui met en jeu le pronostic vital, diapo. D'autres évoquent en plus du traumatisme violent, quel qu'il soit, même si on ne voit pas les lésions, on peut considérer que la personne est polytraumatisée. Diapo. Alors, la définition de la société albanaise que nous avons laissée inclut un volet laboratoire avec acidose métabolique, etc. Alors, pour certains, le terme polytraumatisé n'est pas très adapté. Il faudrait plutôt parler de traumatisme grave, sévère. C'est pour cela que j'avais titré le propos comme traumatisme sévère. Diapo. C'est toujours la série de définitions. Cela vous montre à quel point le polytraumatisé est complexe. Et il faut adapter la définition. Nous sommes ici en extra-hospitalier. Et l'extrait hospitalier sous-entend qu'on n'a pratiquement rien, on n'a pas de labo, mais on doit être capable, première chose, d'évaluer le polytraumatisé, donc, et s'assurer que c'est un polytraumatisé. Il faut donc avoir des arguments qui nous permettent de faire l'évaluation, peut-être pas à coup sûr, mais de manière très rapprochée. Diapo. Alors, on a vu une définition tout à l'heure qui parlait d'INR, qui parlait de pH, qui parlait de base, ainsi de suite. Cette définition, il y en a qui trouvent qu'elle est inadaptée pour la première personne qui évalue le polytraumatisé en extra-hospitalier. Diapo. La définition qui est adaptée a été proposée par Zakaria. Il parle des lésions traumatiques qui menacent le pronostic vital de manière patente ou latente. On retient bien ici que ce n'est pas toujours évident. Peut être latent, c'est-à-dire le patient, la victime semble tout à fait normal, mais il faut faire attention. Cette victime a subi un traumatisme dont le mécanisme et la violence du choc laissent croire en l'existence de pertinence. Je veux donc dire que la nature du choc est un élément très important dans le diagnostic du polytraumatisme, même si les lésions ne sont pas. On sort une personne d'une voiture en épargne, c'est un polytraumatisé juste après que. Contraire. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez identifié une victime comme polytraumatisée? Diapo. Évidemment, elle débute sur les lieux de l'accident et les éléments sont là, il faut traiter, évaluer, diagnostiquer, traiter les détresses, assurer l'analgésie. On peut dire que la prise en charge va reposer sur l'évaluation de la gravité, les bilans lésionnels, le conditionnement du patient et à l'aide des orientations. Allons-y. C'est les trois étapes que nous avons évoquées. Tout le monde peut le faire, hein? Les professionnels de santé. Et en général, ce ne sont pas les professionnels de santé. Et les personnes qui sont dans la communauté, ou alors les deux, si la victime a de la chance. Alors, l'évaluation du polytraumatisé, il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation du danger initial et l'évaluation du danger vital. Le premier, c'est quelle est la cause de l'accident. La deuxième évaluation nous permet d'identifier ce qui menace la vie de la victime. Diapo. L'évaluation initiale du danger initial. Cette évaluation sur les lieux de l'accident nous permet de cibler les causes et elle va déboucher sur les gestes de protection. Le patient a fait, la victime a fait l'accident pour telle ou telle raison. On doit dégager la victime, diapo, de la place. Les gestes de protection sont un préalable. Alors, parmi les gestes de protection de la victime, on en a qui consistent uniquement à supprimer le danger, si on peut le faire, ou à dégager la victime. Ça, c'est connu, c'est vrai, mais ce n'est pas évident lorsqu'on est devant la victime, sur la victime. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il faut placer la victime soit à un endroit ou en position d'attente pour retarder la dégradation de son état. Diapo. Alors, quelques exemples de protection que tout le monde doit connaître ici, soit par la traction, déjà il peut délimiter la zone. Et on n'a pas toujours tout le matériel qu'il faut, on verra tout à l'heure. En tout cas, après avoir l'idée pour limiter le suraccident, il faut dégager lorsqu'on le peut la victime pour le mettre en sécurité. Diapo. Donc ça, c'est les méthodes de dégagement en diapo. Alors, la désincarcération. La désincarcération, elle est souvent à l'origine de beaucoup de décès chez nous, chez les victimes chez nous. Et j'ai un très mauvais souvenir d'un médecin qui était médecin généraliste, mais qui s'occupait des enfants à l'hôpital de la Caisse, qui va à Kribi, parce qu'elle s'occupait du sida aussi, je ne cite pas les noms, je ne cite pas les contemporains. Mais on peut donner l'exemple. Là, en voiture, la route Yaoundé-Douala est en travaux. De temps en temps, on arrête une file pour laisser passer l'autre. On arrête sa file, elle est là. Une voiture vient, on est derrière pendant qu'elle est en stationnée. Alors, elle est coincée au niveau du thorax par le tableau de bord. On appelle les gendarmes, c'était presque au niveau des DA. Les gendarmes, ils arrivent quand ils ont pu, ils ont regardé, ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Elle a appelé l'hôpital de la Caisse. C'est l'hôpital de la Caisse qui est arrivé avec une ambulance, mais c'était trop tard. Elle a été coincée, son mari l'a tourné sous ses yeux. Donc, il faut utiliser quelques moyens en cas de désincarcération parce que c'est une situation gravissime. Diapo. L'alerte, on l'a évoqué tout à l'heure, pendant qu'on se démène sur le lieu, il faut toujours faire annoncer au service de santé. Diapo. Diapo. Le danger vital, nous avons vu que la deuxième façon d'évaluer, c'est le danger vital, celui qui met en jeu le pronostic vital du patient. Ça passe par tous les moyens qui permettent de faire le diagnostic et des lésions et des conséquences et des autres choses. Hein. Ça peut être des comorbidités aussi. Diapo, cette évaluation doit être continue parce que nous avons vu que le phénomène du polytraumatisé n'est pas statique. Il y a une évolution et une dégradation qui est continue. Diapo. Diapo. Donc, elle repose sur l'évaluation. Nous avons dit des lésions et des conséquences physiologiques. Elle doit être le plus approfondie possible et exhaustive. Diapo. Là, c'est bien compliqué, mais si on a la chance que sur le terrain il y a un personnel de santé, il faut quand même qu'il approfondisse l'évaluation. Ici, par exemple, une des fonctions qui pose le plus de problèmes, c'est le polytraumatisé. C'est vrai qu'il y a l'hémorragie, mais il y a aussi l'hypoxie tissulaire avec une fonction respiratoire qui est assez souvent entamée. Diapo. L'hypoxie tissulaire, allons-y. Diapo. Après avoir fait cette évaluation, elle doit déboucher sur une décision de prise en charge. On est en extra-hospitalier, on est sur les lieux d'accident. On n'a rien, mais il faut pourtant donner des soins et il faut prioriser les soins à donner. Et il y a des référentiels que j'entends moi aussi, hein, A, B, C, D, E, que vous voyez ici. C'est les moyens mnémotechniques et les moyens qui nous permettent de bien agencer les gestes que nous avons. Lorsqu'on est, je le répète, je l'ai vécu devant une victime, c'est pas souvent parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On doit avoir des réflexes. Diapo. Diapo. Il y a plusieurs acronymes comme ça. Il y a MARCH aussi qui aide à suivre un certain agencement sur les gestes à faire. Lorsqu'on a proposé les premiers, il faut envisager le transport de polytomates. Alors, le transport, il y a plusieurs méthodes. Nous avons opté tout à l'heure à partir du titre sur le stay and play, qui est une méthode utilisée dans le système européen. Et le stay and play, nous avons, lorsque nous avons contribué à la création du SAMU Cameroun, on a hésité et on s'est dit que n'ayant ni adresse, ni rue, on savait à l'époque côté de quel fumier ou bien quand vous aurez dépassé tel. Mais c'était difficile de. Nous, on n'a même pas pu faire le cas de localisation des patients. Néanmoins, on a opté pour le stay and play parce que là, sur place, on pose des actes. Et c'est là où maintenant, il est important qu'à partir de cette rencontre, nous puissions décrire comment nous envisageons le stay and play dans notre contexte. Diapo. L'orientation, il est recommandé d'orienter le patient dans un trauma center. On va aussi proposer quelle est l'orientation que nous souhaitons parce que les accidents, lorsqu'on a pu faire l'épidémiologie pendant quelques années, la plus grande proportion des accidents se faisait dans les campagnes où il y a au mieux un hôpital de district. Diapo. Alors, nous retenons pour cette première ou deuxième partie que la prise en charge du polytraumatisé débute sur les lieux où on doit traiter les détresses vitales immédiatement, assurer l'analgésie, prévenir les déplacements, les fractures, etc., surtout le rachis, et traiter les lésions associées, si possible. Surveiller les pertes sanguines parce que l'hémorragie est souvent la première cause de mortalité. Diapo. Tout cela est écrit partout, pour tout le monde ici. Maintenant, comment faire pour être pragmatique sur le terrain, pour ne pas tant paniquer et pour être efficace dans les délais exigés. Diapo. Nous n'avons pas souvent les moyens. On espère un jour, hein, qu'on va y arriver. Et je rappelle qu'il y a des SAMU privés. Messieurs et dames de l'ASCA, vous pouvez nous offrir des SAMU privés par exemple. Il y en a. Il faut adapter tout ce que nous avons dit là. Parce que les polytraumatisés, c'est nous qui en avons de plus. Lorsqu'on voit les chiffres dans les pays développés, ils sont en train de décroître. Au moment où l'OMS signale que, je crois, en 2030, ça va être multiplié, la mortalité par les traumatismes va être multipliée par X. Mais cette proportion est en baisse dans les pays développés, alors qu'elle augmente en Afrique. Donc, c'est nous qui sommes concernés. Il faut concevoir les éléments pour pouvoir. Nous avons dit, l'urgence arrive n'importe où, n'importe quand et à n'importe où. Et pas seulement aux autres. Diapo. Nous sommes tous concernés. C'est toujours le problème de chez nous. Il faut signaler qu'un des problèmes majeurs, c'est le paiement préalable de l'urgence. Parce que même l'urgence, il faut payer. Et je me souviens avoir appelé un hôpital de référence. On m'a dit qu'il prenait cherchait les patients sur le terrain. J'appelle. Et le collègue anesthésiste que j'ai eu au téléphone me dit: oui, professeur, il faut nous envoyer la famille pour qu'ils payent d'abord. Avec le reçu, on va donner la boîte. il s'agissait d'une tant qu'on voit la famille, tant que la famille arrive, tant qu'elle paye la facture, et le temps qu'après avoir payé, la voiture arrive sur les lieux, vous avez vu le délai. Donc on a ce gros problème aussi qui handicape la prise en charge extra-hospitalière des urgences. Je dis que la SCAR est là, le bureau est là. Moyen de transport, on peut, c'est accessible. Et puis on a les collègues qui viennent de Bakou. Vous pouvez nous obtenir une ambulance que nous mettons au service des Camerounais sur les routes hautement accidentogènes. Voilà une première contextualisation. Il y a les délais excessifs pour que les victimes aient les premiers soins. Il y a des problèmes de communication. C'est vrai qu'on a aujourd'hui le téléphone, tout le monde a un téléphone. Ça peut peut-être résoudre si on s'organise bien. Il y a une indisponibilité grave du matériel. On a pu avoir des dans les ambulances, ce n'est pas toujours le cas. Diapo. Il faut donc intégrer les spécificités de notre environnement. Parce que nous avons le devoir, au sortir d'ici, pas seulement de dire les grandes choses, les grands développements physiopathologiques, parce que j'en ai entendu beaucoup depuis hier, mais de contextualiser. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons les problèmes de tout ça qui est souvent éloigné des structures de soins. On avait conçu quelquefois avec des amis après la catastrophe des EHPAD. On avait conçu de faire des postes de secours. On a même commencé. Bon, il fallait les moyens. On a commencé au niveau de Gouyébé, ça a marché un peu. Nous nous sommes dit en attendant, essayons. L'insuffisance des transports médicalisés, on l'a dit tout à l'heure, les équipements et la structure et les ressources humaines diapos. Tout n'est pas toujours noir, c'est vrai. On a par exemple conçu la création du SAMU au Cameroun en 2004. C'était un SAMU pilote qui avait pour objectif, bien sûr, la prise en charge extra-hospitalière des traumatismes graves. Ça n'a pas tenu longtemps. On a pensé, ça c'est au niveau du ministère de la Santé, lui aussi, impliquer les différents hôpitaux jusqu'à la troisième catégorie à cette mission-là de gestion des urgences. Mais après évaluation, la mortalité est toujours très élevée. Un centre des urgences a même été créé pour prendre en charge les urgences de tout le pays. Bon, la question c'est que est-ce qu'un hôpital seul, même s'il est de référence, peut prendre tous les urgences ensemble du pays. Donc la prise en charge des urgences extra-hospitalières reste problématique. Diapo. On a évoqué les différentes limites, on ne va plus revenir là-dessus. Mais on évoque ces limites non pas pour accuser, mais pour dire nous avons une limite ici, trouvons une solution à cette limite. Diapo. Diapo. Alors effectivement, on a évoqué quelques problèmes et quelques solutions, notamment le déficit de personnes qui prennent en charge l'urgence quand elles subissent sur les lieux de l'accident. On avait proposé, ça c'est des anciennes propositions que nous avons faites, qui n'ont toujours pas été implémentées, mais nous continuons de voir que la solution d'implication de la communauté devrait être étudiée pour que lorsque un accident grave survient, que les communautés se sentent concernées et s'impliquent. On peut les porter et être là comme nous le disons. Et pourtant, ce sont des gestes. Ce sont des gestes que les réanimateurs ont conçus. Nous n'oublions jamais. Aujourd'hui, la Croix-Rouge court partout, mais tout ce qu'elle fait, c'est la conception du corps médical qui a délégué ces gestes. Donc, on peut aussi former les personnes dans les villages. Je me souviens un jour, un neveu qui était enseignant à Bangassina, qui me parle des agressions qui ont lieu dans le village là-bas. Et il me dit, nous avons fait des groupes de défense. Groupe de défense. À quoi ça sert votre groupe de défense? Oui, lorsqu'on est attaqué, on se défend. Je dis, mais le groupe de défense peut intégrer des soins. Lorsque vous avez un accident, vous pouvez en même temps que pour vous proposer des gestes de soins. Nous avons aussi intégré cette proposition parce qu'il faut que les communautés. Je crois que ce qu'on appelle médecine communautaire, c'est ça aussi. Hein? Parce que les gens qui font santé publique croient que c'est eux seuls qui font la médecine communautaire. Les réanimateurs qui sont là. Faites des projets de médecine communautaire. Ça, c'est la médecine communautaire. Et je pense que ça pourrait trouver preneur. Diapo. Alors, on est arrivé à une sorte de médecine hospitalière qui n'est pas forcément porte-parole pour notre projet, mais les couvertures sanitaires que nous faisons souvent. Je crois que tout le monde est là. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il est temps qu'on puisse réorganiser pour donner un agencement qui ressemble à quelque chose d'accord. Alors, ici, on est plus en état hospitalier. Comme le terme qu'on parle de mise en charge médico-chirurgicale, j'ai juste débouché ceci pour dire que quand le colis traumatisé a la chance d'arriver dans un hôpital adapté, évidemment, on va insister là aussi en priorisant sur les lésions qui sont plus sévères et qui vont entraîner, qui risquent d'entraîner au maximum de conséquences délétères. C'est tout ça, la réanimation hémodynamique, la prise en charge, disons la maîtrise des hémorragies, en sachant que c'est l'hémorragie qui est le problème majeur. Je crois que ça finit là. Hein? Hein? S'il vous plaît, je vais conclure sans dire. La conclusion est simple. S'il vous plaît, nous sommes très nombreux dans la salle. Nous avons même la chance d'avoir une haute autorité du ministère. Je vous propose, avant que samedi, de proposer un projet qui va nous permettre d'avoir un modèle de prise en charge extraordinaire des grands traumatisés, parce que nous en sommes les premières victimes et chacun de nous ici. On a dit, ça arrive n'importe où, n'importe quand et à n'importe